par la fond.
Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que finalement, ce livre est presque un livre de résistance, quoi.
Et Laurence Tardieu, La confusion des peines, chez Stock.
Sont nos vies qui, à un moment donné, s'effondrent.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h. Radio France, partenaire des défis de Philippe Croizon, nager au-delà des frontières. Philippe Croizon et ce nageur amputé des quatre membres. Avec Arnaud Chasserie, ils viennent de réussir le premier défi en reliant la Papouasie à l'Indonésie à la nage.
On vient juste d'arriver, Arnaud et un nageur papou qui nous a accompagnés. C'est vraiment le symbole de nageur dans les frontières qui a été fait aujourd'hui.
Leur deuxième traversée, de Aqaba en Jordanie à Taba en Égypte. Suivez les exploits de Philippe Croizon et Arnaud Chasserie dans les émissions de France Inter et sur radiofrance.fr et nageauxdelà-des-frontières.com. France Inter, la différence.
15h04 sur Inter, Daniel Mermet, tout de suite, là-bas si j'y suis.
Bonjour, les amis Modeste et Géniaux. Bon, bah, aujourd'hui, on a deux Niçoises qui sont montées sur une grue pour manifester leur désapprobation des 3000 logements vides sociaux à Nice. Je leur tire un chapeau, je leur fais clap, clap, clap avec mes mains. Bravo, 3000 logements libres, sociaux à Nice. Que fait le maire ? Sûrement, lui, il doit s'en foutre pas mal parce qu'il a une piscine, une maison et tout ce qu'il faut. Mais il y a des gens qui sont à la rue à Nice. Il faudrait peut-être pas qu'il oublie. Alors, bougez-vous, vous qui êtes au pouvoir dans vos piscines, bougez-vous. Ou alors, on va venir les vider, nous, avec des petits siphons. Des siphons pour les piscines. Ça sert à rien, une piscine. Hein. Ça pollue, tout ça. Et bougez-vous, les élus, là. Bougez-vous. On est dehors, nous.
Bonjour, c'est Philippe de Nantes. J'appelle parce que ce matin, j'ai entendu l'ami Raffarin sur France Inter. Et il mettait dans le même sac, comme beaucoup de gens de l'UMP en ce moment, ou tous les gens de l'UMP, le Front National et le Front de Gauche, en parlant des extrêmes. Ça me semble doublement dangereux, cette affaire. Parce que, effectivement, traiter l'extrémiste et l'extrême gauche, le Front de Gauche, je ne suis pas sûr que ça soit la réalité. D'autant plus qu'on se demande dans ces cas-là ce que sont l'ONPA et Lutte Ouvrière. Ça doit être franchement des terroristes. Si le Front de Gauche et extrême gauche. Et puis ça veut dire aussi que si le Front de Gauche est extrême gauche, que le Parti Socialiste, eh bien ça serait la gauche. Et ça, j'en suis encore moins sûr. Ça me pose vraiment des questions. Enfin des questions, j'ai la réponse. Ne vous inquiétez pas. Ciao, bye.
Ouais, salut à tous. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de messages sur le répondeur qui évoquaient la situation du Front National, et notamment dans le Sud-Est. Nous, on est sur le canton de Fayence. Et il y a une personne, notamment, j'ai entendu un message qui disait « Oui, mais le Front National, ils ont bien le droit d'exister. » Je vais vous raconter une anecdote, ça se passe à la mairie de Fayence, dans le Var. Il y a une équipe municipale, les employés municipaux de base, une trentaine, dont une vingtaine doivent être du brave con local, quoi. Local ou pas, d'ailleurs. Et qui tiennent des propos racistes, homophobes, enfin, vous imaginez le tableau, en permanence. Et il y a un gars qui bosse avec eux, et ça l'a gonflé. Il est allé s'en plaindre... d'une chose l'autre, les mots sont montés. Du coup, comme il était sous contrat, son contrat ne sera pas renouvelé, parce que c'est plus facile de ne pas renouveler le contrat à un mec qui s'est un petit peu énervé que de s'attaquer à la racine du mal quand 25 personnes diffusent de la haine en permanence. Voilà, il y a des quotidiens comme ça, mais ça n'empêche pas la lutte. En tout cas, je me suis régalé avec Pascal Pascariello aujourd'hui. Porte-toi bien.
Oui, non, madame de Cavaillon qui parlait sur le répondeur le 12 juin. Le Front National n'est pas un parti comme les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Marine Le Pen qui va danser avec des néo-nazis en Autriche, ce n'est pas comme les autres. Marine Le Pen qui accueille le responsable d'un parti néo-nazi le soir du premier tour de la présidentielle en France, ce n'est pas comme les autres. Non, je vous jure, madame, le Front National, c'est vraiment pas un parti comme les autres. Jean de Paris.
Et c'est vrai qu'on a tort de diaboliser le Front National. Oui, bien sûr, ils tiennent des propos un peu racistes, un peu xénophobes, contre les immigrés. À qui c'est un peu la faute, hein, d'ailleurs ? Faut comprendre que dans une démocratie libérale et laïque, on ne peut pas admettre des prières dans la rue, des repas religieux dans les cantines, l'excision des filles. Ce qu'on appelle la xénophobie du Front National, c'est pas méchant, en fait. C'est l'esprit de clocher, voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Et c'est vrai qu'on oublie une chose, en ne diabolisant que le Front National, c'est que François Hollande, à la présidentielle, et les députés socialistes aux législatives, ont été élus ou vont être élus avec des voix de l'extrême gauche. Et ça, on n'en parle pas assez. Heureusement que l'UMP est là pour nous le rappeler. Alors on stigmatise les électeurs du Front National parce qu'ils ont l'esprit de clocher. Mais vous avez déjà regardé les revendications de l'extrême gauche? Non. Ils réclament l'égalité. L'égalité des salaires, par exemple. Et même s'ils ne demandent pas encore l'égalité réelle, ils dénoncent les écarts entre les salaires des riches et ceux des pauvres. Dégueulasse. Ils voudraient que des bons à rien, voire des assistés, gagnent au moins 1700 euros par mois. Et ils voudraient réduire les revenus de ceux qui font vivre et qui sont l'honneur de notre pays, nos meilleurs ambassadeurs pour l'image de la France à l'étranger. Les chefs d'entreprise, les financiers, les champions sportifs, les artistes en tout genre, chanteurs, acteurs, couturiers, top modèles, présentateurs de télé, etc. Les militants ou sympathisants de l'extrême gauche, ils réclament aussi l'égalité des droits. Droit de vote pour les étrangers, régularisation des sans-papiers, droit de se marier et d'adopter des enfants pour les homosexuels, droit de fumer du cannabis, droit d'accès au logement et à la santé pour tous. C'est franchement dégueulasse, quoi. Comme si tous les humains étaient égaux et avaient les mêmes droits. Alors, dénoncer les accords électoraux et même programmatiques entre la droite et l'extrême droite, et accepter que la gauche engrange les voix de l'extrême gauche, c'est ça qui est scandaleux. D'un côté, on dénonce la xénophobie, la politique sécuritaire, et de l'autre, on laisse des gens prôner des idées aussi nauséabondes que l'égalité en droit de tous les humains. Quelle honte! C'est ça qu'il faudrait diaboliser. Mais j'y pense. C'est ça, en fait, qui est diabolisé dans notre société. Ah merde, j'ai tout faux. C'est l'égalité qui est diabolisée. C'est pas la xénophobie. Oh putain, faut que je refasse mon message.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici à Tripoli, en Libye. Tripoli écrasé par la chaleur. C'est vendredi, c'est le jour de la prière. La ville est complètement déserte. Et c'est assez tendu quand même, l'atmosphère de l'après-Kadhafi. Instabilité, chaos, il y a encore des centaines de milices armées, des gens, des jeunes surtout, qui ne veulent pas rendre les armes et qui s'organisent et qui se renforcent. Hier, dans la région, ici, il y a eu des accrochages entre deux tribus rivales, les Zentanes, les célèbres Zentanes, et les Maïchécha. Et ça a fait déjà une trentaine de morts. On s'est approché de la ligne d'affrontement et c'est assez impressionnant, ça a tout l'air d'une guerre civile. Pendant ce temps-là, dans cette heure modeste et géniale qui s'appelle « Là-bas, si j'y suis », vous allez voir défiler des canons et des boudins. Des canons et des boudins, c'est une émission qu'on a dégotée de derrière les fagots, de derrière la dune. Les vacances s'approchent, il va falloir se faire beau et se faire belle. Et voilà ce que sont les canons et ce que sont les boudins, mais je reste vague volontairement, bien sûr. Vous allez en savoir plus d'ici 16 heures dans la basse, j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe et tous les auditeurs. Un petit renseignement généreux, un apéro bio-concert vous sera offert samedi prochain vers midi au Biopôle du Bocage à Burcy dans le Calvados. N'hésitez pas à venir nombreux et n'oubliez pas votre bonne humeur. Et bouchoutez. À bientôt.
Le repère de Annecy se tient ce soir à 19h au Dersim à Mété. Au programme, les choix et les orientations de notre repère pour la rentrée de septembre. Vos idées, vos envies, vos projets sont les bienvenus autour d'une mousse ou d'un kebab. Bonne humeur et convivialité sont obligatoires. C'est ce soir, vendredi 15 juin, au Dersim à Mété à 19h, qu'on se le dise et répète.
Rassemblement important cet après-midi à 18h30 devant l'ambassade grecque, 17 rue Auguste Vacry, métro Kléber, contre l'austérité avec le peuple grec. Je vais peut-être pouvoir connaître enfin pour la première fois de ma vie un gouvernement de vraie gauche en Europe avec le parti Syriza. Ce rassemblement est organisé par ATTAC, la Fondation Copernic, la NPA et le Parti de gauche. Soyons très nombreux. Bonne fin de semaine à tous. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
De tête, je m'aime pas du tout. Comment tu te trouves, toi?
Mignonne, belle.
Moi, je me trouve mignonne. Je sais pas, je me trouve... comment dire?
J'ai une belle gueule. J'ai une gueule de caractère. Je donne vachement le sentiment d'être une belle nana.
Ça bouffe pas beaucoup, cette taille-là. Il est marrant, le monsieur.
En vérité, je me sens pas beau. C'est ce qui me désole. C'est ce qui me déçoit énormément. C'est ce qui me chute. C'est ce qui me détruit.
Pour les garçons, je fais 132 tours de poitrine. Voilà. Comme ça, ils sont au courant.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Sophie Simoneau. Boudin et canon, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Ce qu'il te faut, c'est un cachot. Le chef ou son missionnaire, un simple trou. Ou bien ta mère.
Boudin, cajot, ta, veau, vieille peau, canon, camion, gaulet d'enfer, charrette, kilo, cajot, planche, trop bas, gaulet, cajot, ta, veau, vieille peau, charrette. Des mots qui tuent à bout portant tout autant que bougnoule, youpin ou sale négro, mais encore plus courant, encore moins tabou. Mais tout autant basé sur le faciès, mais tout autant sur ce qu'on est, sur ce qu'on paraît. Et personne ne s'élève contre ça, cette éternelle injustice. Alors qu'on ne pense qu'à ça. Du miroir de la salle de bain à la rue, du boulot à l'amour, du miroir au regard, on ne pense qu'à ça, surtout, surtout quand on n'y pense pas. Ça commence tout petit, au berceau, dès qu'on arrive, oh qu'il est beau le petit, et ça finit dans le cercueil. Là, on vous embaume encore, on vous fait beau, beauté, beauté, mon cher, souci. Beauté, et donc laideur, inséparable couple, voilà l'essentiel de nos vies. Le reste, c'est du pipeau. Et pourtant, chez nous, c'est un frivole sujet. Après l'État, voilà l'été. On s'est dit, fini. À nous, les plages ensoleillées, les terrasses et les pastis. Où on va mater, on va se faire mater. Mais, gare aux bides, planque tes plis, gomme tes rides. On va se mater, on va se mater, les chiens... font ça avec leur nez, nous c'est avec les yeux qu'on se sent et qu'on se tâte. Et chacun sa petite chance à la loterie de l'été. Petit lot, petite noix, gros biscotto sur le marché de l'été. La pub pour vente d'or-bras, les musclés, les bronzés. Boudin, cajot, tas, veau, vieille peau, canon, camion, gourlis d'enfer, charrette. Épuisant. Ce qui peut-être peut consoler, c'est que la beauté n'est jamais que de la laideur en préparation. Ah ! Pourquoi se venger des femmes, disait je ne sais plus quel salaud, le temps s'en charge à votre place. Éphémère, beauté, fragile, fleur d'un jour, beauté fatale, instant fatal, et puis la ride qui vient véloce, la pesante graisse et remords et regrets. Oh, tu m'aurais vu, vous m'auriez vu. Oh, j'étais si belle, j'étais si beau. Impossible papillon, impossible bouchon. L'histoire des hommes et des femmes consiste à vouloir fixer la beauté, arrêter les aiguilles, alors que partout la mort est au travail. Et depuis toujours et partout, l'homme essaie de niquer l'engrenage avec ses petites papates. Désespéré,
le peintre devant son modèle. Atroce, le photographe qui fixe la future nostalgie. Bouleversant, ces architectes de la Grèce antique qui dessinaient les colonnes du temple sacré selon les proportions des plus belles femmes de la ville. Ainsi, chaque colonne serait femme, chaque colonne serait habitée, ainsi, si pure, ainsi, dépouillée. La beauté des choses serait faite de la beauté des êtres. C'est-à-dire de désir, c'est-à-dire de plaisir, c'est-à-dire de baise, qui est avant tout le moyen de refaire de la beauté. La mère et la fille, toujours recommencer. La laideur serait la règle et la beauté l'exception. Même si la beauté cachée délai se voit sans délai, qu'on le veuille ou non, la beauté et donc aussi la laideur est le principal souci de nos vies. Depuis partout, depuis toujours, nul n'échappe à cette fatale tyrannie. Dès qu'il y a eu figure humaine, la question aussitôt c'est beau ou laid. Question qui se pose. Question qu'on se pose. Qu'on se pose soi-même, à soi-même, dont on cherche la réponse dans le miroir des autres. Est-ce que vous voulez de moi ? Dis-moi ton corps sur Inter. Fatale beauté, ordinaire tyrannie.
De taille plutôt grand, plus grand que la moyenne, peut-être plus large que la moyenne également. Long, disons le brun.
Vous voyez blonde?
Oui, mais les gens me voient brune, c'est vrai.
Vous êtes brune?
Ah, voilà justement. Un exemple. Parce que j'avais les cheveux blonds quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, et j'ai pas senti le changement.
Comment je suis, comment je parais, comment je crois que je suis, comment dit-on que je suis, comment je suppose qu'on me voit. L'aspect, le corps, le physique, la beauté, la laideur, l'éphémère, en somme, que nous sommes. Voilà une question, éternelle question qui, je vous promets, c'est sûr, n'aura aucune réponse. Évidemment pas, parce qu'il n'y en a pas. Simplement, une occasion de penser à l'importance extraordinaire de la beauté et donc de la laideur dans nos vies, dans nos mondes, et de songer à l'extraordinaire inégalité que cette chose, cette valeur, cette échelle, comme vous voulez, représente pour nous. C'est nous qui avons inventé la beauté. L'homme est le seul animal qui ne s'accepte pas tel qu'il est. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire
de la beauté. De la beauté de l'homme et de la femme et des enfants, des êtres humains et des choses. Mais d'après ça, il y a une corrélation évidente entre ce que nous considérons comme une chose belle, comme un paysage beau, comme une œuvre, comme une musique, et nous, et notre corps, et notre physique. C'est indissociable. Il n'y a pas un objet et puis un être. L'objet est simplement un truchement, un moyen, parfois un fétiche qui nous ramène à cette éternelle question, fatale énigme de la beauté. Et alors, ce qui est formidable, c'est que dès qu'on dit beauté chez nous, je dis bien chez nous, vous allez voir, on va essayer d'évoquer rapidement d'autres sociétés, d'autres civilisations sur notre planète aujourd'hui ou dans le passé. Mais chez nous, dès qu'on dit beauté, ben, c'est tout de suite frivole. C'est une histoire de gonzesse, c'est une histoire de produits de beauté, de l'industrie de la beauté, de machin de la beauté. C'est frivole, c'est pas très important, c'est pas très intéressant. On voit quand même comment hier, on a vu encore dans nos écrans ces messieurs généralement atteints par l'andropause, remplacer une beauté qui leur fait, malgré tout défaut, par la puissance, autre puissance politique, puissance du pouvoir, autre moyen de séduire. Mais la beauté ne se mange pas en salade. La beauté est subversive. La beauté sera subversive ou ne sera pas. André Breton nous l'avait bien dit et redit. Alors voilà, subversive, beauté, insupportable, injustice, c'est ces mots-là qu'on a essayé avec Sophie de faire sortir des corps. Comment vous vous voyez? Comment vous vous décrivez? Comment vous voyez et décrivez les autres?
C'est quoi un bel homme pour vous?
Ah, pour moi, un bel homme, c'est... un bel homme? Ah, pour moi, un bel homme, c'est un mec qui a un beau cul. Et un beau torse. Ah ben, moi, je vais pas chercher ce que j'ai. Hein. Je vais chercher ce que je n'ai pas. Monsieur! Putain, qu'est-ce qu'il a mis sur la gueule, lui?
Je viens de chercher une demi-heure sur le plan, là. Vous connaissez pas la rue Crignon?
La rue quoi?
La rue Grignon.
Grignon?
Oui.
Tout droit, monsieur.
Comme ça, là.
Mais vous avez pris sur la tête?
Oh, c'est fixateur.
Le fixateur? Oh, allez dedans, il vous a bien fixé. Tout droit, monsieur.
Oh, merci.
Oh! Oh, mais putain, j'ai l'impression qu'il avait pris un pot de colle dans la gueule.
Qu'est-ce que c'est un beau mec pour vous?
Un beau mec pour moi? Celui qui est capable de me tenir.
Vous tenir?
Tenir, c'est-à-dire que le physique, je n'ai rien à foutre. Mais quand, par exemple, il me dit, tiens, ma chérie, je t'amène au restaurant, je te paye ta coiffure, qui joue son rôle? Sinon, le physique, qu'est-ce qu'on a?
Chez nous, c'est comme ça.
Je vous dis que le raisonnement est toujours...
Mon con, moi, je te trouve que tu es belle.
Voilà.
Tu es belle.
C'est gentil.
Tu as une taille économique.
Une taille économique, ça bouffe pas trop alors. Ça bouffe pas beaucoup cette taille là. Il est marrant le monsieur. Une taille économique. Alors là, ce mot là, je le retiens. Hein. Tu comprends, Christine?
C'est vrai que c'est pas la même chose. Les critères de beauté, on le sait, on le répète, sont pas les mêmes dans le monde aujourd'hui. Il y a des ethnies au Mali, je crois, où on gave les jeunes filles pour le mariage. Il faut qu'elles soient le plus grosses, le plus grasses possible. La graisse, le gras, a été longtemps, et encore dans pas mal de sociétés, des critères de beauté. Beauté, tout simplement, ou alors le signe de réserve de nourriture. On a connu ça chez nous, le petit bedon du bourgeois du 19e, un Bouddha boudiné en Extrême-Orient sera célébré. C'est très touchant de voir ça. Des gens qui bossent dans les champs, très maigres, très, très fins, comme ça. Nous, on dirait très fins, mais en fait, les mecs, ils sont très maigres parce qu'ils ne bouffent pas beaucoup et qui admirent un Bouddha gras, immobile, etc. pour le même physique. Pour le même physique, une fillette, une jeune fille, ici, peut très bien se flinguer, sauter par la fenêtre parce qu'elle se trouve trop grasse. Donc c'est très relatif. On sait aussi très bien
comment le bronzage chez nous. Là, on va tous bronzer, on va se foutre sur la plage, on va... Ah, c'est tout à fait récent, c'est une histoire tout à fait récente. On la situe au lendemain de la guerre. On ne sait pas d'ailleurs d'où ça vient exactement. Mais en tout cas, jusqu'à une époque très récente, il fallait rester surtout le plus blanc possible. La beauté était dans la blancheur des femmes. Sinon, on ressemblait, c'était très très vulgaire, mais quoi donc, à une paysanne, à ces gens qui avaient le teint hâlé, comme du cuir, etc. Et ça, c'était laid, puisque c'était populaire, puisque c'était vulgaire. Mais peu importe que les critères changent, on adore raconter ça. Mais c'est toujours la même cruauté, la même tyrannie, irrésistible tyrannie.
C'est qui la plus belle fille de la classe ?
Moi,
c'est moi. Nadia Caniba.
Angélique.
C'est personne.
Madame, faut interroger un garçon.
Toute la classe me trouve beau.
Comment tu te trouves, toi ?
Belle.
Moi, je me trouve mignonne. Je sais pas, je me trouve... comment dire ? Je sais pas quoi trop. Je me trouve, je suis sympa avec les autres et tout, mais j'aime pas que être déformée, quoi. D'avoir une mauvaise taille.
C'est fou, elle est belle, elle a une bonne taille. Je sais pas, moi, elle est belle, elle est bien faite.
Oh non. Le matin, quand je veux m'habiller, c'est pas pareil, hein. Quand je veux mettre des choses, par exemple, comme un body avec un jean, alors ça va surtout pas. C'est pas que ça me va pas, ça me va, mais quand je m'assois... Ah, c'est horrible, quoi. Je supporte pas ça. Ce qu'elle aime pas, elle, c'est pas être bien. Je sais pas comment la décrire.
Moi, je trouve qu'elle est gentille et sérieuse. Pour une déléguée.
Et puis, elle nous aide bien quand il y a
des problèmes. On a des problèmes, tout ça. Elle nous aide.
Madame, on a tous voté pour elle pour être déléguée de classe.
Parce qu'elle est sympa, elle a tout pour être bien.
Elle fait bien son rôle, quoi.
Sinon, mais quand tu dis ça, quand je rentre chez moi et tout, je trouve pas ce qu'ils disent, quoi.
De tête, je m'aime pas du tout. Et de corps, j'ai des grosses cuisses. Je sais pas, j'ai des grandes mains. C'est tout.
Tu es où à l'école ?
Où ça ?
Nous, on parle physique. Ouais, on parle physique. J'aimerais savoir comment tu te trouves physiquement, toi.
Je me trouve stockement, moi.
Moi, franchement, tu vois, je suis stockement, j'ai rien à dire d'autre. Stockement, beau corps, tout ça. Je suis costaud.
Ah, génial.
Il n'y a pas que le physique, je trouve qu'il faut pas trop coller aussi.
Aïe. Toi, tu les trouves comment, les filles ?
Chum,
c'est moche ?
Madame, j'aime pas leur look. Tous ces sortes de skins. De skins, là. Même pas des 501, pas des hauts courir. Regarde, le 501, la paire de Reebok, gars. Alors, les lunettes de chez les hindous dans le métro.
Et c'est quoi une fille belle pour toi ?
Une fille belle, elle a de la peça, des gros seins, des grosses fesses, sexy. Elle aime Nex, elle le zub.
Il faut que tu me traduises là, moi je comprends pas.
Je la baise.
T'as pas faim ?
Non, j'ai envie de rien. Je suis bien.
C'est vrai ? T'es bien avec moi ?
Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux.
Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, ben, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Ah, t'as des yeux tellement transparents qu'on s'attend à y voir passer des poissons rouges. La beauté, aujourd'hui, le physique, cette tyrannie de la beauté. Rien n'est plus meurtrier que les canons de la beauté. C'est banal, et pourtant, nul ne songe à s'élever contre cette violente inégalité. Est-ce qu'il y a déjà eu des manifs de lait
Imaginons que tous les affreux, j'en serais évidemment, on en serait tous. On serait dans la rue, les filles qui bossent ici n'en seraient pas. Elles y viendraient parce que vous le serez un jour ou l'autre, les filles. Et c'est ça qui nous console. Quand on vous a pas, on se dit, de toute façon, le temps nous vengera. Ça tue la laideur, ça handicape à vie, ça donne des privilèges immérités. La beauté, c'est une angoisse, et, ou bien ça vous tombe dessus comme le loto. La beauté ne va pas de soi, elle s'invente chaque jour. La laideur, c'est la règle, et la beauté, c'est l'exception. Et la beauté, c'est un boulot quotidien, ça se chante, ça impose un culte intransigeant. Offrande, chant sacré, temple, prière devant les icônes de Marilyn ou de James Dean. Que de sacrifices consentis dans le silence, que de soumission éhontée dans une société qui se figure affranchie, libérée. À tel point que chez nous, on lutte contre la beauté. Oui, c'est pas le cas de toutes les cultures. La chasteté, la pudeur, on a inventé aussi, et c'est pas tous qui connaissent cet avatar qui est le masochisme de la beauté inemployée, une destruction comme de la haine, c'est comme la haine et de l'amour inemployé. Le masochisme, c'est quelque chose qu'on retourne contre soi, une autodestruction. La beauté détruite, la beauté déniée, la beauté dénigrée, beaucoup plus qu'on ne le suppose chez nous. On continue cette balade avec Sophie Simoneau, qui a demandé à des gens, comme ça, un peu au hasard, mais pas tout à fait, raconte-moi ta gueule.
Le physique, moi j'ai une particularité, c'est que... Enfin, j'ai une particularité, chacun la sienne. C'est que en termes de jonglage, j'ai une belle gueule. J'ai une gueule de caractère. Je donne vachement le sentiment d'être une belle nana. Et en même temps, je suis extrêmement bousillée. J'ai genre deux mômes qui sont passés par là, qui ont laissé l'enveloppe creuse et déchirée à 17 ans. Et en même temps, avec la gueule que j'ai, avec le look que j'ai, et en jouant cette image, ben, les gens sont en demande de cette image, puisque je dandine comme Morissette, telle avec ses miches qui lui remontent au Wonder Brass. Et puis qu'à côté de ça, bah non, c'est Josette avec les gants de toilette qui lui repasse derrière l'oreille. c'est un petit côté inattendu, mais c'est pas toujours évident, quoi. C'est pas toujours évident. Parce que je sais que ce que j'ai sur le corps, c'est pas peu, hein. Je veux dire, c'est pas peu. C'est vrai que tu le vois pas, je te lève pas mon t-shirt pour te montrer mes seins, pour te montrer mon ventre. Et c'est genre 17 cm de cicatrices sur le ventre, c'est 12 milliards de vergetures, c'est chaud, quoi. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû avoir la nécessité de bousiller mon corps pour rentrer dans une zone de refus. Parce que ma mère était un petit canon, parce qu'elle jouait énormément son physique. Et que, fallait déchirer l'histoire, quand même, déchirer l'histoire. Et un jour, j'ai pris mon petit cartable et j'ai fait genre... Enfin, j'ai pris mon petit sac et j'ai fait, bon, allez, je fais 800 km, je vais voir la gueule qu'a ma mère et je vais voir à quoi je risque de ressembler quand j'aurai 60 piges. Bon, c'était entre le charme et le dégoût, entre... Mais au moins, je savais à quoi ça ressemblait, tu vois. Je savais à quoi ça ressemblait, à quoi potentiellement je pouvais ressembler.
Alors, à quoi tu vas ressembler?
À quoi je vais ressembler? À quoi je vais ressembler? Un bout de là où je viens, et un bout de ce que j'invente. Ouais. Entre ce qui se répète et ce que j'invente. Voilà.
Ah ben moi, je viens d'avoir 50 ans, je me trouve pas trop mal. Hein. J'ai pris un petit peu de poids parce qu'on vieillit, mais sinon, moi, je suis pas trop mal. On m'appelle la petite bouboule, mais c'est bon. C'est tout, c'est sympa. Je suis fausse maigre. Je fais 60 kilos, c'est déjà pas si mal pour ma taille. Voilà. Mon mari aimerait mieux que je sois un petit peu plus mince. Mais bon, on fait avec. Je peux plus. Alors des fois, il me dit, attention maman, tu manges trop. Et ta ligne. Ah oui, j'ai dit, oui, c'est vrai, alors stop. Alors, c'est dur des fois, mais bon, je le prends bien. Je le prends bien. C'est vrai que mon mari, quand il regarde des petites minettes, bah, c'est vrai que ça fait drôle. Quoi. Tu vois, merde, moi, qu'est-ce que je suis là? Il regarde, il dit, bah oui, mais c'est pas moi, non? Et quand, surtout quand il y a des beaux films à la télé, les belles filles, tu sais, les filles en maillot de bain, tout ça, qui ont un beau corps. Oh, là, les yeux écarquillés, là, il regarde la télé, là, dis donc. Ah ben, je dis, oui, mais c'est pas moi, tu vois. Ah ben, il me dit, voilà, c'est pas toi. Non. Je dis, ça fait rien. Je suis ta petite femme comme je suis. Mais oui, ma chérie, je t'aime comme t'es. Il me dit, je sens que je vais faire des folies. Ah ben, je dis, non, c'est pas le moment. 28 ans que ça dure, hein. 28 ans que je suis mariée, quand même, hein. Faut le faire, hein.
Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait. Tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules par du carton sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît.
Il a réussi, lui, hein, celui de Fréhel. Il est laid, comme un passet, il est bête, il est machin. Et on l'aime. Bravo, bravo. C'est ce qu'essaye de faire Woody Allen. C'est ce qu'a essayé de faire Gainsbourg toute sa vie. En voilà encore deux qui ont réussi. Mais c'est pas souvent que ça marche comme ça. Et encore, il y a ce clivage, puisque c'est le grand mot, entre les hommes et les femmes. Furieuse inégalité. On parle de fracture et de fracture, mais entre les beaux et les laids, la fracture est terrible, est terrible. Bien sûr, il y a riche et pauvre, il y a cultivé et inculte, il y a honnête et malhonnête, il y a bon et mauvais, il y a en bonne santé et malade, il y a vieux et jeune. Et mieux vaut, évidemment, être jeune en bonne santé, bon, honnête, riche, cultivé, riche et beau, que pauvre, inculte, malade, etc. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand même quelque chose d'énorme et de cruel et de non-dit. Vous avez vu comme les mots sont pas faciles quand il s'agit de soi-même, alors qu'on passe notre temps devant nos miroirs. Mais si, vous savez bien. Et regardez-moi, vous me voyez? Alors, je sais bien, on le sait bien, on est tous pareils. Et on se le dit pas, et on sait pas. C'est nos vies, c'est notre condition humaine que celle de ces miroirs. Regardez dans la rue, regardez là. Elles sont à tomber, elles le font exprès. C'est des tas de petits viols, ces regards que nous portons. On fait notre miel, on se regonfle la libido, on se la refait, la santé. Pour qui? Ah, pour une d'elles, pour une seule peut-être. Ça, c'est une autre histoire. Une histoire qui aboutira tout droit à la reproduction de cette beauté toujours menacée. On a vu la mère, on a vu l'enfant, la fille qui va voir sa mère. C'est plus terrible des femmes entre elles. Le moment où la mère n'est plus ce qu'elle était, où la fille prend le pouvoir par sa beauté. Tout ça ne correspond pas du tout à ce dont on parle, à ce qui peuple nos conversations. Domaine, évidemment, c'est celle des grosses. Comment parlent vraiment, en vrai, les grosses quand elles parlent suffisamment longtemps?
Oh. physiquement, c'est un peu dur. Physiquement, alors je commence, j'ai les yeux verts, je suis châtain foncé. Je dois bien faire 120 kilos. Ouais. Oui, je compte l'argent. Vaut mieux parce que ça fait des années que je me pèse plus. Donc comme ça, moi, je suis plus. Et pour les garçons, je fais 132 tours de poitrine. Voilà. Comme ça, ils sont au courant. J'aime bien être admirée, oui. Mais ça, c'est normal. Quand on est narcissique, on aime bien être admirée, se regarder, se dire « Oh, qu'est-ce que je suis belle ce matin dans le miroir », voire même embrasser le miroir, ça m'arrive. Ouais, j'aime bien qu'on me regarde.
Et tu te regardes souvent dans le miroir ?
Oh ouais, j'adore ça tous les matins, en maquillant. Il y a même des fois, je suis plus fière de moi que d'autres jours, alors je m'embrasse, je me dis « Ah, que je m'aime ». Et ma mère qui arrive à ce moment-là, elle dit « Mais t'es vraiment malade ». Je fais « Non ». De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc je m'aime. C'est incroyable comme je peux m'aimer même. Mais c'est vrai que c'est pas facile à vivre tous les jours. Hein. On a souvent des critiques. Mais bon, c'est pour ça que j'aime bien aller à la piscine, parce que comme ça, je les embête tous. Je fais exprès de me trimballer sur le rebord de la piscine, rien que pour voir leur tête. Et quand ils suivent de moi, je rigole avec eux. Et ben après, ils comprennent, ils arrêtent. Je les mate dès l'entrée, en fait. Je les mate à l'entrée. Sur le coup, ils disent, tiens, elle est bizarre, celle-là, pourquoi ? On se moque d'elle, elle rigole. Elle est pas bien, cette fille. Puis après, ben, ils font même pas attention que j'existe.
Est-ce que les hommes regardent ton corps ?
À mon avis, ils regardent que les seins. C'est une fixation, ça. Mais c'est la vérité, c'est une fixation. Mais je sais pas ce qu'ils ont tous après mes seins, mais c'est grave. Je sais pas, moi. Et la plupart, c'est des hommes qui sont mariés. Ça que j'ai pas compris. C'est... Déjà, moi, je sors la plupart qu'avec des hommes qui sont mariés. Je sais pas, je le fais pas exprès. C'est eux qui me courent toujours après. Et généralement, quand on les voit, ils sortent avec des... Ils sont mariés avec des minces. Alors, j'en ai conclu qu'ils se marient avec des minces pour faire beau devant la galerie. Et prenaient des maîtresses fortes, parce qu'en fait, c'était leur plaisir. Peut-être parce que comme je ne suis pas comme tout le monde, ça doit les intriguer. Donc ils doivent sûrement se demander, je veux voir ce que ça donne avec une femme forte. Ils doivent sûrement se poser cette question-là aussi, je suis sûre. Parce que plusieurs fois, on me l'a dit. On m'a dit, ouais, j'aimerais bien coucher avec une femme forte pour voir quel effet ça fait. Je dis, ben bon, je veux bien servir de test, mais bon, pas tout le monde non plus. Hein. Et je sais pas, ils sont plutôt louches. Hein.
Ça doit pas être facile de se blottir dans les bras d'un homme quand on a du chagrin et qu'on est forte comme toi.
Si, c'est bien. On redevient facilement une petite fille dans les bras d'un homme quand on veut. Hein.
Même toi.
Même moi. Et puis alors moi, je le fais exprès. Moi, j'aime bien. Je fais tout pour des fois même me trimballer en petite fille. Il n'y a pas longtemps, je m'étais fait donc les anglaises, des nœuds roses, le maquillage rose, tout, comme une petite fille. Et ça a bien plu à tout le monde. Ça a bien fait rire tout le monde. Pourtant, il y a un truc que j'aimerais bien faire. Mais ça, c'est plus un gag que... J'aimerais un jour m'habiller tout en cuir, avec des barésilles et des talons hauts, mais tout serré. C'est un truc qui me plaît juste pour voir ce que les gens vont dire. Juste pour voir. J'étais toute fine, toute petite. Même ma grand-mère me disait, quand on te prenait la main, on avait l'impression que t'étais même pas là. On te sentait même pas. Et en fait, j'ai commencé à grossir depuis que mon père est parti. Mes parents sont divorcés et depuis que mon père est parti, j'ai commencé à grossir. Et ma mère aussi, d'ailleurs. Mais ça n'a pas d'importance maintenant. Il est parti. Hein. On va pas me faire une maladie. De toute façon, c'est un salopard, alors...
Donc t'as jamais eu de papa qui t'a dit que t'étais jolie ?
Non. Non, et puis je m'en fiche d'abord. Non, il m'a jamais dit que j'étais jolie. Il a su simplement me critiquer parce que j'étais trop grosse après. Mais bon, il n'aime pas les grosses. Hein. C'est pas de sa faute. N'empêche que lui, maintenant, il a pris de la bouteille aussi, pépère. Hein. Il est plus franchement mince. Hein. Alors maintenant, il peut la ramener. Hein. Il a le droit. Hein. Mais bon, je suis contente parce que ma demi-sœur, elle n'est pas mince non plus. Ma demi-sœur, si elle fait pas de régime, elle gonfle aussi. C'est bête, hein. Alors ça m'amuse. Vache pour vache, de toute façon, maintenant, je fais plus de cadeaux. C'est terminé.
Ça fait du mal, ça ?
Quand j'étais petite, ouais, parce que je comprenais pas pourquoi il me faisait ça. Je comprenais pas pourquoi il me disait ça, alors qu'à la limite, ça pourrait être... Je l'avais mis en faute, lui, parce que s'il serait pas parti, peut-être que j'aurais pas été comme ça. Donc je comprenais pas pourquoi il me faisait tout un cirque de ça, quoi. Surtout que moi, je m'en foutais complètement. Mais bon... Je m'en fiche complètement, lui, en fait. J'ai déjà dit que si lui, il mourait, je serais vachement contente. Alors que si Sardou mourait, je serais très malheureuse. C'est pour voir la comparaison. C'est déjà ça. Lui, s'il meurt, ma parole, je danse sur sa tombe. Ah, y a pas de problème. Je fais une foire, mais alors... Ça va être grave.
Putain. Que les femmes sont belles. En tablier se disait simplement un jardinier. Dieu, que les femmes sont bonnes. À confesser se disait chastement un jeune curé. Minuit, que les femmes sont belles. Un peu jetées se disait embrumé à déboucher. Rage, que les femmes sont belles. Sur papier couché se disait de la main un enfermé. Que les femmes sont belles, presque habillées, se disait de son feutre un couturier. Putain, rage, minuit, un flash sur de la soie crue. Les femmes sont belles, c'est dit. N'en parlons plus.
Ah ben, les autres, maintenant, ils font plus attention à moi. Ça va, ça allait ça jusqu'à l'âge de 40-50 ans. Mais après, quand on arrive à 60 ans, tout ça, c'est... Non. Non, j'avais une voisine qui me disait que j'étais beau quand j'étais jeune. Moi, je me suis jamais trouvé plus beau que les autres. Je n'étais pas plus moche non plus, mais enfin.
Si, si. Moi, je vous voyais dans la rue, je vous trouvais beau.
Et moi, je trouve que c'est des belles femmes. Et vous encore, vous avez la jeunesse, vous êtes plus belle que nous.
Ça va finir par un mariage, vous allez voir. Ah oh là 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 là.
La beauté, la séduction, c'est l'éternelle saison de cette beauté fatale, de cette ordinaire tyrannie dans ce monde sans pitié, d'une infernale cruauté si on regarde à travers. Beauté et laideur, beauté vénérée chez nous de plus en plus à travers des critères difficiles, étroits, exigeants, commerciaux, industriels, tout ce qu'on voudra. Et c'est notre intégrisme à nous. Est-ce que vous m'acceptez tel que je suis ? Qu'est-ce que je dois faire pour m'intégrer à ce groupe humain ? Je suis beau, je suis pas beau, je peux me faire beau, je peux me faire beau, je peux me faire comme il faut. Je me hais, je m'aime, c'est selon vous, je me aime.
Je me sens comment ? Je me sens normal, voilà. Normal, ouais, c'est ça. Ouais, d'un côté, je m'aime et d'un côté, je m'haïs. Mais ça, je ne peux pas vous préciser. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment c'est déçu, si vous voulez, en quelque sorte. Je regrette d'avoir existé, si vous voulez. C'est terrible, mais c'est ça. Parfois... ça me dit rien d'être... d'avoir une tête ou vivre ou ça, patati patata. C'est... En vérité, je ne me sens pas beau. C'est ce qui me désole, c'est ce qui me déçoit énormément, ce qui me chute, qui... ça c'est ce qui me détruit. C'est la seule chose qui me détruit. J'ai pas confiance en moi, c'est vrai. Parce que j'ai fait des mains et des pieds pour me relever et j'ai pas pu. Là. Alors là, je suis déçu de moi, voilà. Je cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Ben, parfois, ça m'arrive de parler avec mon oncle. Hein. Je discute avec lui. Non, sérieux, hein. Je parle avec lui. Patate. Bon,
avec pas... qui?
Avec mon oncle qui est dans la glace. Je moque de lui, je rigole, c'est tout. C'est très drôle. Pour moi, toute la vie est drôle. C'est... Je sais pas, tout l'univers c'est drôle. C'est drôle pour moi. Même moi aussi je suis drôle. La vie elle est drôle. Les gens. Le temps. Ah ben oui. Ben, tout ça c'est drôle. C'est peut-être parce que j'arrive pas à les voir.
Vous dormez où le soir?
À la Belle Étoile, mademoiselle. Vous connaissez la Belle Étoile?
Elle est belle?
Elle est belle, justement, elle est belle. C'est pour ça qu'on l'appelle la Belle Étoile.
Belle Étoile, y a-t-il des étoiles qui ne le soient pas? Y a-t-il des femmes qui ne soient pas belles lorsqu'elles prennent le risque de reproduire cette beauté? C'est la beauté qui reproduit la beauté. Les hommes ont inventé la beauté, mais c'est les femmes qui la reproduisent.
Depuis 2 semaines, ça fait effectivement 2 semaines que je ne peux plus mettre les mêmes habits, que j'essaye de trouver des habits un peu plus confortables. Et ça m'a frappée. Je trouvais très sympa de la part de l'enfant de rester discret, c'est comme ça que je l'appelle. Il avait resté tout à fait discret sans se montrer pendant 4 mois. Et depuis 2 semaines, apparemment, ça commençait à pousser. Et ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout, l'effet de que ça se voit en fait, que je suis enceinte, enfin physiquement que ça se voit. Et donc pour l'instant, je refuse de me sentir mère parce que je ne pense pas que... Enfin, je refuse, je ne me sens pas mère plutôt. Je continue à me considérer pour l'instant qui est dans le rôle des femmes. Je ne vois pas plutôt une femme qui puisse inspirer des désirs en fait à un homme lorsqu'elle attend un enfant. En tout cas, je pense que déjà à la suite, j'ai une intention assez ferme pour essayer de revenir à mon poids. À mon poids d'avant, à mon corps d'avant. Et il y a une phrase, en fait, quand je demandais à mon copain qu'est-ce qu'il pensait, s'il pensait que j'ai récupéré mes formes, je sais un peu comme auparavant, il m'a dit, bon, de toute façon, je pense pas que tu vas, enfin, que ton corps va revenir comme auparavant. Et je pense qu'il va rester changé, de toute façon. Disons que déjà avant, c'était pas... par les top modèles, donc il ne faut pas penser que tu vas revenir à un top modèle. Alors bon, je pense qu'il est un peu réaliste. Ce n'est pas très sympa, mais je pense que dans sa vision, dans son image, l'image des femmes, il verra, enfin, il jamais récupérera la même image qu'il avait auparavant de moi. Qui vous trouve belle? Lui, il me trouve belle. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il était un peu attiré par moi. Mais je ne pense pas qu'il utilisera l'adjectif belle après. Je pense qu'il ne dira plus jamais « ma femme est belle ». Alors ça, c'est peut-être un peu à moi. Je ne sais pas s'il va le dire ou non. Mais peut-être qu'il verra, il dira plutôt « elle est sympa, elle est active, elle est dynamique ». Il va utiliser plutôt autre type d'adjectif. Sauf belle.
C'était Boudins et Canons, une nouvelle version d'un reportage de Sophie Simoneau. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno, réalisation Bertrand Chometon et Franck Aderer, assistante Marina Touyez, chef du répondeur Grégory Salomonovitch. Grégory qui attend vos messages sur le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire de Tim Burton, l'exposition. Après le Museum of Modern Art de New York, où l'exposition fut un succès historique, le travail de Tim Burton est enfin dévoilé au public européen, à la Cinémathèque française jusqu'au 5 août. Dessins, maquettes, extraits de films, l'occasion unique de parcourir l'étendue du travail artistique de Tim Burton, de l'originalité de ses premiers travaux et débuts chez Disney, jusqu'à l'envers du décor de ses films cultes. Retrouvez Tim Burton, l'exposition, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire de l'Atlas des Civilisations 2012, un hors-série Le Monde de la Vie. Riche de 200 cartes originales et des analyses des meilleurs experts, l'Atlas revient sur 6000 ans d'histoire des civilisations pour comprendre le présent à la lumière du passé. Cette nouvelle édition, en incluant les derniers événements majeurs, souligne à quel point nous passons d'un monde de civilisation à une civilisation monde. L'Atlas des Civilisations 2012, un hors-série Le Monde de la Vie, à lire en ce moment et à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Après le journal Quand la musique donne, Didier Varro reçoit Arthur H et Nicolas Repac. Bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est tout pile 16h. Les informations, Nicolas Taillard.
Les dirigeants européens débutent à l'instant même une visioconférence. Objectif de cette réunion à distance, préparer le G20 organisé en début de semaine prochaine au Mexique. Un tour de table qui intervient sur fond de profondes divergences entre Paris et Berlin au lendemain de la présentation du plan de François Hollande pour sortir de la crise et relancer la croissance. Angela Merkel s'est livrée ce matin à une critique en règle des propositions françaises. La médiocrité ne doit pas devenir l'étalon dans la zone euro, a asséné la chancelière, qui déplore par ailleurs un manque de confiance entre acteurs européens. L'Europe dont les plans sont de toute façon suspendus au vote grec, 2 mois après un scrutin qui n'avait pas permis de dégager une majorité pour gouverner. De nouvelles législatives sont organisées dimanche et le résultat qui sortira des urnes aura une très forte influence sur la suite des opérations. Autre pays surveillé de très près, l'Italie, dont la dette publique représente plus de 120% du PIB. Pour la réduire, le gouvernement italien a décidé aujourd'hui de vendre des biens immobiliers publics pour environ 10 milliards d'euros. On revient en France avec cette mise en examen pour viol des footballeurs Bafétimbi Gomis et Johan Benalouane à Lyon. L'attaquant lyonnais et son ancien partenaire stéphanois sont accusés par une femme de 38 ans. Elle évoque des contraintes morales à l'issue d'une soirée arrosée. Après 2 jours de garde à vue, les 2 hommes qui parlent de leur côté de relations consenties ont été remis en liberté mais placés sous contrôle judiciaire. La Cour de cassation a tranché. Le président de la République pourra désormais engager une action en justice pendant son mandat s'il est victime d'une infraction. Jusqu'à présent, l'immunité présidentielle qui protège le chef de l'État d'une attaque en justice empêchait également qu'il puisse agir comme victime. L'immunité présidentielle, elle va justement prendre fin ce soir à minuit pour Nicolas Sarkozy. Un mois tout juste après la passation de pouvoir, il va redevenir un justiciable comme les autres, ce qui pourrait par exemple permettre à des magistrats de le convoquer. Ce soir minuit, c'est aussi la fin de la campagne du second tour des législatives en France, scrutin que la gauche devrait emporter haut la main. Le PS étant même, selon les derniers sondages, en mesure d'obtenir seul une majorité absolue. Pour autant, les socialistes ont encore quelques cailloux dans leurs chaussures. À La Rochelle, bien sûr, où le duel fratricide entre Ségolène Royal et Olivier Falorni ne montre aucun signe d'apaisement. Et puis dans le Vaucluse, où malgré les appels au retrait renouvelé de Martine Aubry, la socialiste Catherine Arkilovitch entend bien se maintenir dans la 3e circonscription. Décision qui pourrait faire les affaires de Marion Maréchal-Le Pen arriver en tête au premier tour devant le candidat de l'UMP. La nièce de Marine Le Pen qui se réjouit du scénario et salue la décision de sa rivale socialiste.
Je tiens quand même à saluer le courage et l'indépendance de cette femme qui se maintient malgré la pression et les petites magouilles d'appareils, voilà, qui sous prétexte d'un soi-disant front républicain ont voulu en réalité protéger leur place et empêcher le Front National d'être représenté. Donc je trouve qu'elle a un certain mérite, mais pour autant je note quand même qu'il y a un sérieux manque de cohésion à l'UMP comme au Parti Socialiste. Je crois au report d'une partie des patriotes de gauche et je crois surtout au vote utile de nombreux électeurs de l'UMP qui de fait vont se reporter sur la première candidature de droite. droite pour faire barrage à la gauche et ne pas risquer de voir le Parti Socialiste passer.
Marion Maréchal Le Pen avec Daniel Morin. Allez, un autre match pour finir. Il débutera dans 2 heures à Donetsk en Ukraine. France-Ukraine, c'est le 2e match des Bleus dans l'Euro de foot et c'est un match que les Bleus ont besoin de gagner pour se rassurer et surtout se rapprocher d'une qualification. Coup d'envoi, 18h.
Nous autres.
Les yeux ouverts, l'écoute des autres.
Zoé Varier.
Une heure avec Françoise Héritier, en forme de fantaisie pour se souvenir des belles choses, de la grâce, de la légèreté et de la beauté d'exister.
Vous êtes fait de chair et d'esprit peut-être, mais en tout cas vous êtes fait de toutes ces sensations, ces perceptions, ces remémorations. Vous ne pouvez pas l'arracher de vous.
Et vous, quel goût a le sel de votre vie?
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
16h04 sur Inter. Bonjour Didier Varro.
Ça va bien Nicolas Théa?
Ça va très bien. Vous êtes en bonne compagnie, dites-moi.
Ah, je suis en très bonne compagnie avec deux loustiques qui se connaissent fort bien, ma foi, Arthur H et Nicolas Repas. Qu'est-ce qu'on vous retrouve à 17h par hasard?
Oui, bien volontiers.
Alors à tout à l'heure. C'est parti.
Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno,
chanson, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment? C'est une vibration.
Didier Varro.
Il est né à Paris en 1966, il est né à Albi en 1964. Il a composé son dernier album avec les 5 doigts de la main droite, plus le majeur et l'auriculaire de la main gauche. Il a enregistré son dernier disque en prenant le blues comme expression musicale d'un sentiment universel. Il a bu la première fois de l'alcool aux Antilles, et c'était du rhum. Il a découvert la musique de la Martinique des années 60 grâce à son cousin qui lui avait offert un magnétophone d'où sortaient des Big In et des chansons populaires des îles. Il dit que sa féminité se traduit par sa douceur, mais surtout par une forme de courage. Il est un disciple de l'art du médium. Il a rendu hommage au disque culte de Tom Waits, Rain Dogs. Il a célébré la puissance d'une voix malienne qui chantait « Euro, euro, on ne trouve pas facile de gagner l'argent français ». Paroles pas si en l'air que ça, presque prophétiques à l'échelle européenne. Il a le goût viscéral de la liberté que lui a transmis son père. Il a retrouvé un peu du blues des montagnes de Serbie et quand le blues s'éveille à l'Est, ce sont les racines paternelles qui sortent de terre. Il a fait sa propre version de l'appel du 18 juin, donnant aux mots du général de Gaulle une fondation rythmique proche du rap. Il est devenu styliste de la mémoire en offrant à son travail de musicien une dimension archéologique. Il est devenu chercheur d'or noir, lui non plus. Il croit en bon petit soldat musical, en la force de la résilience. Il aime faire de la politique avec des notes. Il s'appelle Arthur H, il s'appelle Nicolas Repac. Deux noms d'artistes pour 4 initiales, AHRP. Eh bien, il ne s'agit pas cet après-midi de parler de l'Alliance pour la ressource de la protection humaine, quoique. Non, il s'agit bien de Arthur H et de Nicolas Repac, frères de son et d'idées, qui se sont rencontrés il y a déjà très longtemps dans une loge de concierges. Ils se retrouvent tous les deux cet après-midi sur France Inter, notre endroit pour une drôle de rencontre. Bonjour Arthur H.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Repac. Les bonnes celles-là.
Le lapsus.
Bonjour. Ça va bien?
Oui, très bien.
Ah, il faut le garder ce lapsus pour le best-of de cet été, puisque nous aurons quelques rediffusions de Quand la musique donne cet été. Je disais donc en préambule, vous vous connaissez très bien. Tout a commencé dans une loge de concierge, paraît-il. Est-ce vrai?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais à l'époque, je vivais à Montmartre dans un petit appartement, un petit studio, et j'avais récupéré le poste de concierge. Juste à mes fins personnelles pour récupérer 4 mètres carrés où se trouvaient les chaudières dans lesquelles j'ai vécu comme un... dans ma caverne, comme ça. Voilà.
Mais il n'habitait pas dans la chaudière, quand même. Il avait un petit appartement, c'était dans la chaudière, tu travaillais ton studio.
Oui, c'est ça, j'ai installé mon...
Avec les poubelles, la chaudière.
Ouais.
Et dans son appartement, ce qui était fou, c'est que les murs étaient peints en noir. Tout était en noir. Quoi.
C'est... Tiens, Jacques, comme chez Gainsbourg.
C'était pas de mon fait, hein. C'était la locataire... juste avant moi.
Alors vous vous connaissez bien, frère de son et d'idées. Je dirais pour commencer que nous allons quand même nous plier au rituel de cette émission. Une petite question et je vais demander à Nicolas Repac de poser une question à son camarade, complice Arthur H.
Oui, alors une question curieuse. Cosmonaute Arthur, Sais-tu sur quelle planète musicale tu comptes nous faire amerrir ou atterrir lors de ton prochain voyage spatio-temporel et phonographique?
Ouais, c'est comme tu le sais, parce qu'en fait, on a fait beaucoup de disques avec Nicolas. Littéralement, les disques sont nés de nos discussions, de nos envies. Et donc, du coup, ça naît comme tout, d'ailleurs, pas seulement les disques, mais dans le monde du rêve. Dans cet espace totalement libre qui crée notre réalité, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit artistique, qu'elle soit tout ce qui existe. Donc là, je suis en train de... Le moteur à rêve,
c'est
à démarrer.
À nouveau.
C'est ouais. Mais c'est des choses, c'est des images très floues, évidemment, dont on ne peut pas parler, parce qu'on ne peut pas les saisir. On les voit, on les admire, elles apparaissent. Mais il ne faut pas trop en parler, parce que sinon, ça les fait disparaître.
Mmh. Arthur H., une petite question à Nicolas Repac, monsieur Black Box, monsieur Boîte Noire.
Alors, ça fait 4 ans que tu travailles sur ce beau disque de Black Box, qui est un disque de blues, où il a repris. Et du coup, là, il sort enfin. Et il y a vraiment un bel accueil, de la bonne presse. Enfin, il est accueilli avec beaucoup de respect et d'amour. Donc, est-ce que t'es pas trop bluesy?